Bienvenue à toutes et à tous dans le premier talk de Championne du Monde. Je suis hyper contente de vous présenter ce nouveau format qui aura pour but de creuser des sujets de société ou d'actualité avec des professionnels de la thématique et toujours, bien évidemment, en lien avec les femmes et le sport. Pour ce premier volet, nous avons réuni Sandra Abergel, médecin du sport, et Juliana Antero, chercheuse à l'INSEP, pour parler d'un sujet terriblement commun et pourtant encore si méconnu, les règles. Mais ne vous méprenez pas, l'idée n'est pas de vous faire un cours d'anatomie ou de physiologie, même si on va forcément en parler, mais surtout de comprendre si notre cycle menstruel a un impact sur nos performances sportives. Y a-t-il des périodes plus propices pour s'entraîner et donc optimiser nos performances? Des moments, au contraire, où on risque de plus se blesser? D'ailleurs, spoiler, les femmes ont par exemple 4 à 6 fois plus de chances de subir une rupture des ligaments croisés, en partie à cause de notre physiologie. Bref, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, ou que vous ne vous posiez pas d'ailleurs, sur le lien entre cycle menstruel et entraînement sportif. J'espère que, comme moi, vous apprendrez plein de choses et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous avez d'autres questions ou interrogations à la fin de cet épisode. On essaiera d'y répondre avec joie. Allez, c'est parti!
Championne du monde!
40-0.
Championne du monde! Championne du monde!
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bonjour Sandra.
Bonjour Juliana.
Bonjour Cléo.
J'adore toujours ces bonjours collégiales, surtout à plusieurs. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier épisode Talk. Vous inaugurez notre nouveau format, donc je suis vraiment ravie de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet important. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez, Sandra et Juliana, vous présenter très rapidement et expliquer finalement pourquoi vous êtes là en fait un petit peu aujourd'hui? Juliana ?
Je suis Juliana Antero, je suis chercheuse à l'INSEP et responsable pour les projets Empower, qui a comme objectif d'accompagner et suivre les athlètes féminines pour améliorer leurs performances.
Très bien, on y reviendra après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et Sandra ?
Bonjour, moi je suis médecin du sport à Rennes, au centre hospitalier privé Saint-Grégoire. Et j'ai une activité donc classique de médecine du sport, mais j'essaye de particulièrement m'intéresser aux thématiques féminines dans mon activité professionnelle et vraiment d'orienter ma prise en charge vers la prise en charge des femmes en médecine du sport et de façon plus assez globale, quoi, pour avoir une prise en charge assez polyvalente de ces athlètes.
Eh bien, vous êtes, on va dire, vous êtes vraiment les expertes de ce sujet-là. Je suis ravie de pouvoir en parler avec vous. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir traiter de la thématique, alors on va dire vulgairement, des règles, mais plus précisément aussi du cycle menstruel, parce que tout ça va ensemble. Vous l'expliquerez bien mieux que moi, parce que je ne suis pas du tout une professionnelle, pour le coup. Et aussi dans l'optique de poser cette question-là, qui, je crois, est une question que vous abordez souvent, qui est l'optimisation de l'entraînement de l'athlète féminine en prenant en compte leur cycle menstruel. Tu parlais du coup, Juliana, tout à l'heure, de Empower, qui est donc le projet sur lequel tu travailles à l'INSEP. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ce projet-là ?
Empower est un projet d'accompagnement scientifique de la performance des athlètes de haut niveau pour prendre en compte leur physiologie, parce que leur physiologie, elle est unique, comprendre leur physiologie et adapter ensuite leur entraînement en fonction de cette physiologie qu'on aura identifiée à travers un monitoring. On fait un monitoring de leurs données au quotidien, relié à leurs données d'entraînement, pour qu'on puisse vraiment, à travers d'une analyse statistique poussée, identifier des phases optimales de leur cycle menstruel pour s'entraîner. Et pour s'entraîner de façon plus adaptée à leurs hormones, adaptées à leurs besoins. Parce qu'elles s'entraînent, elles vont s'entraîner tout au long du cycle. Il n'y a pas une phase où elles ne vont pas s'entraîner. Ouais. Mais c'est d'identifier les fenêtres optimales pour cet entraînement.
Moi, j'avais une question aussi. Pourquoi vous avez été amenée à travailler sur cette thématique en particulier? Parce que quand on est médecin du sport, il peut y avoir plein de spécialités, j'imagine. Pareil, quand on, en tant que chercheuse, est-ce que c'était vraiment une volonté de votre part d'aller explorer ce sujet-là?
Alors moi, en fait, quand j'ai commencé à me former en médecine du sport, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'hommes qui examinaient des hommes, qui aussi examinaient parfois des femmes qui consultent un peu moins pour le même type de douleur, en fait, ou de problèmes articulaires. Et en fait, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi on prend en charge de la même façon un homme et une femme, sachant qu'on a effectivement une anatomie différente, une physiologie différente. Et en fait, voilà, moi, j'avais besoin de donner du sens à mon activité professionnelle et me dire que j'allais pouvoir justement essayer d'adapter au mieux la prise en charge des patientes, que ce soit voilà, pour un trauma de genou, une entorse de cheville ou une baisse de performance, adaptée à la physiologie féminine et pouvoir répondre à leurs problématiques spécifiques, pas prendre juste en charge l'aspect musculo-squelettique ou voilà, et vraiment pouvoir leur essayer de la prendre en charge de façon vraiment très très globale, et donc c'est en ça que petit à petit je suis arrivée à m'intéresser à ce type de, enfin aux troubles du cycle menstruel notamment, parce que ça fait pleinement partie de la prise en charge d'une sportive, qu'elle soit de haut niveau ou pas. Et en fait, souvent, les troubles du cycle vont être un aspect révélateur de problématiques un peu plus larges et qui peuvent faire le lit de blessures. Et donc, en fait, finalement, c'est assez central. Enfin, c'est un des éléments de la prise en charge, mais c'est l'élément qui ressort en général le plus facilement et qu'on arrive à identifier le plus rapidement en discutant avec les patientes. Mais en fait, derrière tout ça, il y a plein d'autres choses qui se cachent. Donc voilà, enfin, en fait, petit à petit, on en vient à ça, parce que c'est ce qui nous différencie aussi en partie des hommes.
Certes.
Donc voilà, sur le plan hormonal, il y a des petites choses qui... Voilà, donc voilà.
Juliana, du coup, toi, au niveau de la recherche?
Au niveau de la recherche, c'était un constat. C'est une étude qui est sortie en montrant qu'il y en a véritablement beaucoup moins de recherches qui concernent les athlètes féminines. On appelle ça les sex data gap. C'est vraiment un manque de données, des connaissances scientifiques touchant les femmes sportives. Et quand j'essaie de creuser cela un peu plus loin, je me rends compte en fait que la planification de l'entraînement, la charge d'entraînement, la récupération, tout ce qu'on va préconiser en termes d'entraînement en général est basé sur la physiologie masculine. Et là, pour moi, c'était un point important. Et pour autant, en tant que chercheuse, il y avait déjà 8 ans que j'ai travaillé sur les suivis longitudinaux des sportifs et sportives. Et cela m'a pris du temps pour me rendre compte qu'en fait, on n'adaptait absolument pas aux spécificités féminines. Parce que aussi, il y a cette question, est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on est pareil? Qu'est-ce qui change d'une femme à un homme? Et à un moment donné, je me rends compte qu'il n'y a pas assez de recherches pour dire qu'on est pareil ou différent en termes des éléments d'entraînement. Et donc, pour cela, il fallait faire plus de recherches. Et donc, je commence à dire, je vais commencer à faire des projets de recherche sur l'athlète féminine. Et moi... à vrai dire, j'ai pensé, non, les cycles n'ont pas d'influence. Ça, c'était mon avis personnel, parce que je ne m'étais pas forcément intéressée à creuser un peu plus là-dessus. Et je commence à faire mes recherches. Et aussi, on fait un constat vis-à-vis des annonces des Jeux Olympiques à Paris 2024, comment étaient les tableaux de médailles entre les femmes et les hommes en France. Et on a remarqué que parmi les nations les plus médaillées au monde, comme les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, c'était environ 50-50%. C'est-à-dire la moitié était des femmes, la moitié était d'hommes, comme c'est attendu. Pour autant, ce n'était pas le cas de la France, où il y avait seulement 30% des athlètes féminines au podium. Et donc, ce sont des éléments qui m'ont poussée à aller chercher des protocoles de recherche qui puissent être adaptés aux athlètes féminines. Et c'est là que je commence à lire, à creuser, à discuter avec des médecins du sport, gynécologues, endocrinologues. Et on s'est rendu compte que finalement, les cycles menstruels ont été vraiment négligés dans la recherche parce que seulement 6% de la recherche en sciences du sport concerne ce que c'est spécifique aux athlètes féminines.
6%.
Et dans ces 6%, c'est peanuts qui concerne le cycle menstruel.
D'accord.
Et pour autant, plus on avance dans cette thématique, plus on se rend compte qu'elle est extrêmement importante. Et moi, pour juste en parenthèse, j'étais sportive de niveau avant. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer sur les recherches, je me rends compte que cela a eu un impact très important dans ma carrière. Ouais. Mais du fait que je n'avais pas des connaissances, je pensais que cela était normal.
Ouais.
Or, plein de choses que j'ai vécues n'avaient pas lieu d'être, tout simplement, comme j'avais complètement... On pourra rentrer dans les détails, sinon ça va être trop longue ma réponse. Mais en tout cas, même j'avais cette premier préavis que non, les cycles menstruels, les femmes, les athlètes, j'étais un athlète, donc je me suis entraînée, et je ne prenais pas en compte les cycles, donc ça n'a pas d'importance. Mm-hmm. Mais non, il y en a une importance, il y a une importance scientifique.
C'est vrai que c'est finalement, quand on est une femme, c'est normal finalement d'avoir ces règles. C'est quelque chose dont on ne s'arrête pas vraiment dessus finalement, j'ai envie de dire, parce que c'est ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est que c'est tellement quelque chose qui est naturel. Enfin,
partie voilà, de notre
ça
routine.
Ça fait partie de nous, oui. Qu'on ne s'arrête pas forcément dessus. Moi, j'aimerais bien juste déjà au début, pour que ce soit vraiment clair, parce qu'en fait, je me rends compte aussi qu'il y a un vrai manque de connaissances, même de la part des propres femmes, de leur anatomie et de tout ça. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est quand on parle de cycle menstruel, ce que ça veut dire?
La première phase du cycle, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire, où en fait, qui commence au premier jour des règles, qui dure quelques jours, enfin, la durée des règles, donc qui peuvent durer de 3 jours à une semaine. Et ensuite, en fait, petit à petit, vous allez avoir, au 14e jour, après le premier jour de ces règles-là, l'ovulation. Donc ça, c'est très théorique, hein, parce qu'un cycle complet va durer entre 28 et 32 jours.
D'une femme à l'autre, ça va.
Voilà, ça peut être 27, ça peut être 35, c'est pas forcément pathologique à ce moment-là. Donc voilà, donc on part du premier jour des règles. À 14 jours à peu près, on a l'ovulation. À ce moment-là, on a un pic en fait d'œstrogène qui va précéder l'ovulation. Et ensuite, on va passer sur ce qu'on appelle la phase lutéale, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a eu l'expulsion de l'ovule, et ben en fait, le reste du follicule va se transformer en corps jaune, qui va produire de la progestérone et qui va participer à la reconstitution de la muqueuse utérine. En fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que le saignement, les règles, en fait, c'est un saignement de la muqueuse de l'utérus qui, en fait, se délabre et qui va saigner. Voilà. Et ça se reconstitue comme ça, de façon cyclique. Et en fait, la reconstitution de cette muqueuse utérine, elle va permettre d'accueillir éventuellement un embryon, enfin un ovule qui va être fécondé par un spermatozoïde. Mais si c'est pas le cas, et ben à ce moment-là, les saignements, enfin les règles vont réapparaître. D'accord. Et donc voilà. Donc en fait, le trouble du cycle menstruel, on parle soit du fait qu'il y ait une absence de règles, donc l'aménorrhée, soit on a des cycles qui vont être qui vont revenir de façon très rapprochée, qui en général sont pas vraiment des vrais cycles, c'est des saignements en fait qui surviennent de façon très rapprochée. Donc on a l'impression d'avoir des cycles très très courts. On se dit j'ai mes règles toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines, alors qu'en fait c'est pas de vrais cycles, c'est juste qu'il y a des petits saignements liés à des productions hormonales tout au long du cycle menstruel. Et ou alors on peut avoir ces règles tous les 3-4 mois, ou tout d'un coup pendant 6 mois on n'a plus de règles, et voilà. Donc ça constitue en fait la norme entre guillemets, c'est pas la norme, mais j'aime pas ce mot là, mais l'aspect physiologique, c'est d'avoir des saignements, enfin des règles qui durent entre 2 et 7-8 jours à peu près tous les mois. Globalement, c'est à peu près ça. Quand on demande à une patiente, moi quand je demande à une patiente si elle a des cycles qui sont réguliers, c'est ça. En fait, c'est voilà, si ça revient cycliquement, après on va rentrer dans le cadre de règles douloureuses ou pas. Enfin, vous voyez, il y a l'autre aspect qui est la tolérance du du cycle.
Et j'allais ajouter quelque chose, c'est que les cycles, c'est un cycle. Parce que quand on discute parfois avec les sportives ou leurs entraîneurs ou entraîneurs, tout de suite, quand on parle cycle menstruel, ils pensent règle menstruation. Ouais. Mais c'est important de souligner que c'est un cycle. Donc, comme Sandra vient d'en parler, il y a des fluctuations hormonales. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et les règles, c'est un signe clinique de ces cycles. Et donc, d'un point de vue d'optimisation de l'entraînement, c'est important de comprendre qu'il y en a toute cette fluctuation hormonale qui peut avoir un impact sur les paramètres liés à l'entraînement.
Tu parles de fluctuation hormonale, effectivement, parce que du coup, nous, on voit le concret,
oui, juste le,
finalement.
Oui.
C'est vrai que c'est, oui, c'est les règles, et puis fait. On se dit que ouais. Le reste du temps, il ne se passe rien. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi c'est important de connaître son cycle, particulièrement quand on est sportive, voire sportive de haut niveau?
J'ai plusieurs éléments de réponse ouais. là-dessus, parce qu'il y a tellement ouais. de choses hyper intéressantes à connaître et qui nous aideraient dans notre perception de la vie de tous les jours et dans notre entraînement. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, quand j'étais sportive de niveau, je pensais que le cycle n'avait pas une influence et c'est que ça serait intéressant de savoir... pour éviter plein de choses. Ça serait notamment, par exemple, les règles douloureuses. Elles existent, sont assez communes, mais très douloureuses, ce n'est pas normal. Donc, c'est parce qu'on parle avec les sportives et parfois, elles vont dire, ben, je serre les dents et on y va. Mais peut-être il y a des alternatives. Et peut-être ce n'est pas la meilleure solution. Donc, la première chose, je dirais, c'est est-ce que ton cycle, il est normal? Est-ce que ce que tu es en train d'expérimenter en termes de fluctuations hormonales et tu le sais par rapport à la régularité de ton cycle, est-ce que c'est normal? Parce que aussi, avoir un cycle irrégulier, comme Sandra disait tout à l'heure, des règles trop approchées ou l'absence des règles quand on fait du sport, ce n'est pas, c'est normal du fait que c'est commun dans le sport de niveau, mais ce n'est pas optimal. Parce que comme on n'en parle pas trop, on n'en parle pas dans les cadres de l'entraînement sportif, parfois les athlètes ont des règles super abondantes. Je vais vous donner un exemple. On avait des sportives qui avaient des règles rapprochées, des 15 en 15 jours avaient des règles abondantes, sont montées en altitude pour faire des entraînements en stage, sans supplémentation de fer. Donc, ce sont des choses... Personne dans leur entourage sportif, et je parle du plus haut niveau en France, n'avait pensé que c'était des éléments importants.
Ouais.
Et donc, je pense que si l'athlète elle-même, elle peut connaître ces éléments, elle-même peut se prendre en charge sans pour autant dépendre de la connaissance de leur entourage, de leurs entraîneurs et de leurs médecins qui, parfois, ils peuvent se focaliser sur d'autres éléments. Et passer à côté de plusieurs signes que les cycles menstruels peuvent envoyer en disant oui, tu es en bonne santé, non, attention, c'est un signe d'alerte.
Il y a de plus en plus d'études sur ce sujet-là, ce qu'on appelle le déficit énergétique, qui en fait correspond à des apports alimentaires qui ne sont pas adaptés aux sportifs. Alors ça peut être soit une restriction volontaire parce que c'est des sports esthétiques ou parce que c'est des sports à catégorie de poids et donc les athlètes font extrêmement attention à leur alimentation, soit c'est parce que les athlètes sont en internat, mangent pas bien, font pas attention, sont débordés par tous les entraînements, les cours et tout ça. Et donc en fait on se retrouve avec... Un déficit énergétique qui s'installe et un des éléments qui nous a permis de mettre ça en évidence, c'est les troubles du cycle menstruel. On s'est rendu compte que associé à ces troubles du cycle menstruel, en fait, il y avait ce déficit énergétique et en fait, on s'est rendu compte que le déficit énergétique était la base de plein d'autres choses parce que ce déficit énergétique va être va mettre au repos certains organes dans le corps et notamment les organes génitaux chez la femme où en fait finalement on va avoir l'arrêt de cette production, enfin de cette stimulation par la base du cerveau tous les mois pour qu'il y ait une production d'œstrogène, de progestérone et donc ça va s'arrêter. Alors effectivement ça pendant des décennies ça arrangeait tout le monde parce que les entraîneurs n'entendaient pas parler de règles et les jeunes filles étaient très contentes de ne pas avoir leurs règles. Voilà.
J'étais même parfois des performances.
Oui, voilà.
Oh, je n'ai plus mes règles. Donc, je m'entraîne.
Je m'entraîne bien.
C'est dur, mon entraînement.
Ouais. Et donc, voilà. Donc, finalement, ça a arrangé tout le monde pendant de nombreuses années. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était associé à un risque plus élevé de fracture de fatigue. Et plus on creuse, plus on se rend compte que finalement, ce déficit énergétique va être à l'origine, certes, de troubles du cycle menstruel, mais aussi de fractures de fatigue. En fait, l'architecture osseuse va être fragilisée par ce déficit énergétique aussi via l'absence de production d'œstrogènes mensuels qui va participer aussi à la consolidation osseuse. Et associé à ça, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi plus de blessures musculaires, plus de risques d'infection d'une façon générale. Donc, petit à petit, on déroule la pelote et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont associées, mais le symptôme initial, ça a été ce problème de cycle, en fait. C'est pour ça qu'on y attache un peu d'importance, c'est que c'est un peu, voilà, c'est le drapeau qu'on peut, enfin, c'est la face cachée de, voilà, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et donc, on se dit, ça commence par là. Et souvent, enfin, moi, je vois en consultation des patientes qui viennent pour, une douleur du bassin, une douleur lombaire, on retrouve une fracture de fatigue. Et puis, quand on creuse, il y a les troubles du cycle menstruel, oui, il y a un surentraînement, oui, il y a des troubles du comportement alimentaire. Et donc, si on veut prendre en charge correctement une patiente, on ne peut pas juste dire je traite votre fracture de fatigue et puis vous reposez, puis vous repartez après parce que ça va revenir, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important et qu'on n'est pas juste obsédé par les règles parce qu'on est des femmes.
Oui,
c'est juste qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un élément qui nous permettait d'investiguer, en fait, de façon un peu plus adaptée les patientes et de comprendre vraiment d'où venait la pathologie. Ça, c'est le premier aspect. L'aspect, en fait, c'est un signe de bonne santé de l'athlète, finalement, d'avoir des cycles réguliers. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, le fait d'avoir ses règles tous les mois peut induire des complications. Si on a des règles qui sont trop abondantes, on peut se retrouver à une anémie, donc la baisse du taux d'hémoglobine qui transporte l'oxygène et qui est essentiel pour que les athlètes, ou les sportives, n'importe quelle jeune femme qui va devoir aller bosser, faire sa vie, faire un peu de sport, elle va être gênée. Des règles trop abondantes peuvent occasionner une anémie et donc ça, c'est pareil, c'est à prendre en charge. Des règles trop douloureuses vont entraver le développement d'une carrière sportive parce que tous les mois on s'arrête ou on comprend pas pourquoi on a mal ou on va s'entraîner alors qu'on a mal on n'avance pas. C'est important de l'identifier parce que on peut le prendre en charge, en fait. On peut traiter l'anémie, les gynécos maintenant commencent à connaître ça de mieux en mieux, pouvoir accompagner les jeunes filles. Je parle souvent de jeunes filles parce que c'est vrai que c'est souvent à ces âges-là qu'on découvre, c'est jusqu'à 25-30 ans où ces troubles-là sont mis en évidence. Comme il y a les jeunes femmes en général veulent avoir des enfants, c'est d'autres choses qui sont mises en évidence, on peut les accompagner. Les gynécologues peuvent mettre en place des traitements contre la douleur ou même certaines contraceptions avec l'accord de la patiente pour limiter des saignements trop abondants. Donc, en fait, c'est un signe de santé, un signe d'alarme éventuellement. Et en même temps, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge pour que les athlètes soient plus performants. En tout cas, que les jeunes femmes soient en bonne santé, en fait, juste tout simplement, et qu'elles vivent bien. On n'est pas obligé d'avoir mal au ventre tous les mois, d'être obligé de se planquer pendant 48 heures.
Oui, c'est pas normal, en fait, faut arrêter de banaliser ça.
Il ne faut pas s'inquiéter, mais on n'est pas obligé de l'endurer, en fait. On a le droit de dire que ça ne va pas et donc on va essayer de s'en occuper. Je ne dis pas que c'est magique, on fait au mieux, mais au moins c'est...
Ça peut être que mieux.
Voilà, en tout cas, on peut essayer d'aider. Et puis ça peut aussi permettre... Parce que moi, je travaille aussi dans un pôle espoir de foot féminin à Rennes, qui je trouve ça extrêmement enrichissant. Et en fait, on le voit bien, les jeunes filles, il faut leur donner de l'information, il faut les rassurer, il faut leur expliquer ce qui se passe, personne ne le fait.
Ouais.
Donc, c'est essentiel, en fait, qu'on puisse avoir ce travail d'information.
Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, et ce que vous dites toutes les deux depuis le début, finalement, pourquoi est-ce que c'est une préoccupation qui est tellement récente ?
Je pense que c'est une préoccupation si récente, étudier les femmes sportives tout court, étudier ce qui concerne spécifiquement les femmes. Je pense que la Coupe du Monde de football a été pour beaucoup, et Georgine Brunsveld, qui est une chercheuse qui a aidé dans cet accompagnement des footballeuses aux États-Unis, et tous les médias qui ont relayé les sujets, je pense qu'ils ont beaucoup aidé à faire les gens prendre conscience de ces sujets. Et après, je pense aussi qu'il y en a un mouvement où les femmes s'intéressent plus à prendre en charge un peu aussi leur santé. Et d'un point de vue de la recherche, je dirais qu'on a tardé beaucoup pour étudier les cycles menstruels, en tout cas dans le sport de niveau. Je pense avant, on n'avait pas assez de technologies nous permettant d'étudier un élément si complexe comme les cycles. Et aujourd'hui, par exemple, les suivis que nous mettons en place à l'INSEP, c'est un suivi multiparamétrique. On prend en compte plusieurs éléments et aujourd'hui, c'est possible grâce aux technologies, les objets connectés, les flux de données qui ont cumulé. Et tout ça, il y a 10 ans, ça ne serait pas envisageable. Oui. Au moins, les types de recherches que nous menons, qui est basé sur la haute technologie, on n'en avait pas. Et aussi, pour mesurer les hormones sur les terrains, parce que les athlètes, elles peuvent faire les auto-prélèvements chez elles. Mais tout cet environnement permettant une analyse poussée dans quelque chose si complexe comme les cycles menstruels, ça serait très compliqué de les faire il y a 10 ans, même si on aurait pu faire d'autres types de recherches. Mais je pense que c'est vraiment une prise de conscience un peu mondiale, ouais. J'ai envie de dire.
Moi, je pense qu'il y a aussi l'évolution sociologique aussi qui fait que, déjà d'une façon générale, voilà, les femmes reprennent petit à petit une place dans la société. Et aussi que le sport, en fait, s'est énormément développé, même chez les hommes. On voit que maintenant... Enfin, moi, en consultation, j'ai des triathlètes de 65 ans qui sont frustrés de ne pas pouvoir faire 80 km par semaine. Voilà, c'est des passions, je pense, qu'on voyait peut-être pas il y a 10 ou 20 ans. Donc, en fait, les gens font de plus en plus de sport, indépendamment du sport de haut niveau. Les femmes aussi, donc, plus. Elles sont aussi plus visibles dans le sport de haut niveau. Elles ont une voix qui porte de plus en plus. Et effectivement, je pense que même sociologiquement... Enfin, voilà, dans la société, d'une façon générale, le sport a une place plus importante. Et les gens ont besoin d'en faire et donc il y a des pathologies qui en découlent aussi, puisque là, moi, je vois même chez des jeunes femmes en postpartum, après l'accouchement ou pendant la grossesse, il y a des demandes. Enfin, voilà, on n'aurait pas imaginé il y a 20 ans aller demander à son médecin est-ce que je peux aller courir pendant que je suis enceinte. Voilà, et c'était très tabou, c'était non mais vous êtes folle, occupez-vous de votre enfant. Je pense que globalement le sport a pris une place très importante dans nos modes de vie très sédentaires, paradoxalement. Donc en fait il y a aussi des pathologies qui sont plus visibles et je pense que les femmes pratiquent aussi beaucoup plus qu'avant, donc
J'aimerais bien rentrer du coup dans le détail, on va dire, sur des sujets bien particuliers et vous questionner, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses finalement aussi en lien avec les règles, etc. Moi, par exemple, la première chose que j'ai envie de vous poser comme question, bon, j'ai toujours entendu que quand on avait ces règles, il fallait éviter de faire du sport. Est-ce que c'est vrai? Je vois, ça hoche de la tête.
Non, mais je pense que laisser Sandra répondre.
Alors, en fait, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend. Si les 2 premiers jours de règles, c'est terrible, on a des grosses migraines, on a hyper mal au ventre, et c'est pas grave de rester se reposer. Et si, même si on court 3 fois par semaine, et ce jour-là, on va pas courir, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le risque principal, c'est si on est très douloureuse ou fatiguée, c'est d'essayer de se blesser, en fait. Sur les contrôles neuromoteurs au niveau du genou, de la cheville et tout, si on n'est pas dedans, c'est à ce moment-là qu'on va se blesser. Donc, c'est pas indispensable. Par contre, si on a envie d'aller marcher 1 heure, si on a envie d'aller faire un peu de vélo, enfin, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication à la pratique sportive. Par contre, c'est effectivement pas le moment, forcément, d'aller faire l'activité extrêmement sollicitante. Moi, je le vois au pôle espoir au sein duquel je travaille. Maintenant, en fait, heureusement, ce qui est super, c'est que l'entraîneur est extrêmement éveillé à ça et toute l'équipe qui est masculine est extrêmement éveillée à ça et très à l'écoute. Et en fait, maintenant, les filles n'ont aucun problème à venir nous voir en disant là, j'ai mal au ventre, ça va pas. Ok, tu te reposes ou alors tu restes avec nous et le kiné, tu fais un peu de vélo, un peu de marche, tu vas trottiner, tu vas faire un petit footing pendant 20 minutes. Il n'y a absolument pas de contre-indication à faire de l'activité. Par contre, c'est important de s'écouter et de respecter. Voilà. Si on a des règles qui sont très, très douloureuses pendant 10 jours, à ce moment-là, je pense que c'est aussi important d'aller consulter parce que si on veut avoir une activité sportive régulière ou même une vie à peu près sympa, ça peut être bien d'aller consulter une gynéco pour discuter de tout ça. Mais pour moi, il n'y a absolument pas de contre-indication à faire de l'activité.
Et il y a même des recherches montrant que c'est bénéfique de faire du sport pour atténuer les douleurs des règles. Okay. Donc, pour la population féminine en général, faire du sport, c'est bénéfique. Après, comme Sandra vient de dire, c'est important de s'écouter aussi. C'est peut-être pas les jours où on va faire l'effort maximal. Mmh. Après, dans notre suivi, on s'est rendu compte qu'il y a des sportives où elles ressentent, en termes d'entraînement, des charges d'entraînement, très bien pendant leurs règles. Elles sont plus rares. Mmh, oui. Je dirais que la règle, on constate une baisse des performances à l'entraînement pendant les règles. Mais il y en a pour certaines, parce que, comme on disait tout à l'heure, le cycle il est très individuel, qu'il soit en cycle naturel ou sous pilule. Les ressentis sont très individuels et on a aussi des sportives qui ont des excellents marqueurs de l'entraînement pendant leurs règles.
Deuxième question, il y en aura plusieurs, mais j'ai aussi entendu que pendant ces règles, effectivement, on avait plus de, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais plus de chances de se blesser en lisant dans des articles principalement sur la partie ligamentaire. Je crois qu'il y a un changement qui s'opère. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas?
Alors, la fatigue générale, au moment des premiers jours de règles, pendant la phase douloureuse, peut occasionner des blessures, si effectivement on fait un effort, on pousse beaucoup sur des blessures musculaires ou ligamentaires, comme j'en parlais tout à l'heure. Par contre, sur l'aspect ligamentaire pur, en fait, il y a des études qui ont montré que, notamment sur la rupture du ligament croisé antérieur, qui est une blessure extrêmement fréquente et de plus en plus fréquente, qui est en fait plus fréquente chez les femmes sportives que chez les hommes, qu'en fait, il y avait un risque 2 à 3 fois supérieur au moment de la phase préovulatoire.
D'accord.
Et pas pendant les règles, en fait, mais c'est vraiment avant l'ovulation, c'est lié à l'imprégnation œstrogénique qui pourrait, en fait, augmenter un peu la laxité ligamentaire. Et donc, voilà, c'est ce qui a été mis en évidence, c'est que déjà, du fait de l'anatomie, une femme à sport équivalent a 4 à 6 fois plus de chances de se faire une rupture de ligament croisé. Encore plus au moment de la phase préovulatoire. Alors d'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut monitorer chaque phase, mais ça veut quand même dire qu'il faut faire un travail préventif. En fait, l'idée, c'est d'identifier les blessures et les risques qu'encourent les sportifs et de pouvoir les prévenir. Après, voilà, c'est pas de les mettre sous cloche pendant 48 heures pour pas qu'elles se blessent, mais c'est de faire tout le travail préventif musculaire et de rééducation et de prépa physique, en fait, pour qu'elles puissent être armées sur ces différentes phases, en fait.
Oui, alors que moi, j'ai toujours été persuadée qu'effectivement, la phase vraiment de règles était la plus
compliquée. Ça dépend comment elle est vécue par les patientes, quoi.
Elle a vécu, je vais la citer, parce que j'ai vu un témoignage de Gina Asher-Smith, une athlète en Angleterre, et qu'elle avait dit, moi, je connais bien mon cycle et j'évite de faire des sprints en phase de menstruation, parce que toutes les blessures disent que jambier que j'ai eu pendant mes règles. Et il y en a des études montrant, par exemple, que la souplesse, l'extensibilité des disques jambiers, elle serait diminuée pendant les règles et augmentée en fin des phases folliculaires, donc c'est la phase qui précède l'ovulation. Et donc, à la fois, cette phase qui précède l'ovulation, elle serait plus à risque pour les blessures ligamentaires. Mm-hmm. Et en menstruation, ça commence à paraître d'études, on manque encore d'évidence plus solide, mais elle serait plus propice aux blessures du type musculaire.
D'accord.
Donc, l'intérêt et l'importance de l'athlète qu'elle puisse connaître son cycle et savoir s'adapter en fonction de son activité. Par exemple, je suis une athlète, je fais des sprints, comme c'est le cas que je viens de citer. Ben, peut-être, en effet, on va éviter de faire les séances les plus qui vont demander plus d'explosivité musculaire pile à cette période. Et à l'inverse, je suis une gymnaste, je vais essayer des nouvelles difficultés, des nouveaux mouvements. Peut-être je vais éviter de les faire pile à ces moments où il y en a plus de risques d'entorses et des lésions ligamentaires.
J'ai une question un peu bébête forcément qui me vient, mais comment fait-on quand on est sportif de haut niveau, qu'on a des échéances qu'on ne choisit pas, malheureusement, quand sont nos compétitions et quand tombent les Jeux Olympiques. Potentiellement, le jour des Jeux Olympiques, on est en premier jour de règles, ou en tout cas, ou dans un moment peu propice, on va dire, peut-être, à la performance. Comment on gère ça ? Est-ce que vous donnez des clés, par exemple, à l'INSEP, aux sportives, sur ces points-là ?
Ça, c'est une question qui nous revient tout le temps.
J'imagine, forcément.
Et ça, c'est extrêmement important à traiter, parce que je vais citer deux exemples. Un, c'est Paula Radcliffe. Elle a fait son record au marathon à Chicago. Elle avait ses règles et elle a dit, bon, mes règles, pour moi, ça ne m'empêche pas de performer. Heureusement, ce n'était pas deux, trois jours avant. Donc, elle connaissait déjà sa fenêtre et pour elle, les règles, ce n'était pas un problème. Or, Jessica Judd, elle fait les demi-fonds. Elle a dit, moi, les règles, je perds 15% de ma performance. Donc, je ne peux pas partir pour des grosses compétitions et tomber dans cette période parce que je ne serai pas au pic de ma forme. Donc, ça, c'est ça.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ont deux éléments très importants, de savoir est-ce que cette période a un vrai impact pour l'athlète. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a pu remarquer parmi nos sportives qu'il y a une baisse des paramètres de l'entraînement pendant l'entraînement, mais pas, pour l'instant, aucune ne serait pas en mesure mais aucune mesure handicapante pour un championnat. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a commencé par dire quels sont les éléments importants à prendre en compte du cycle. Bon, si l'athlète elle a une règle extrêmement douloureuse, en ce moment, elle n'est pas adaptée, en effet, pour faire la compétition pendant cette période. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Parce que parfois, la discussion qui revient dans le sport, c'est comment peut-on manipuler les cycles des athlètes.
Bien sûr. Oui,
mais ça, c'est pas du tout intéressant et intelligent, je dirais, de faire. Parce que, en fait, il faut, au lieu d'essayer de manipuler d'une forme et autre, c'est de vraiment comprendre ceci, comprendre les impacts et agir en amont. Et c'est ça qu'on essaie de dire, parce que s'il y a des athlètes qui ont des règles trop abondantes, des cycles irréguliers ou bien il y en a des problèmes, il faut essayer d'aller chercher la cause d'abord, parce que cette cause normalement va avoir un impact aussi sur leur entraînement et puis les permettre de performer dans toutes les phases. Même si on aura des phases optimales en ce moment pour l'entraînement, mais pour la compétition, il y a les aspects motivationnels aussi qui peuvent jouer les rôles. Et c'est à l'entraînement que c'est compliqué, qu'on est de mauvaise humeur, tout simplement. Parfois, on a un peu plus la flemme. C'est normal, on est aussi sous influence des variations hormonales. Donc, l'intérêt de maximiser l'entraînement en fonction du cycle. Mais pour la compétition, il faut écarter les cas où l'athlète elle identifie une incapacité à performer. En ce moment, il faut apprendre, il faut tester avant. Ce n'est pas les jours des Jeux Olympiques ou du championnat les plus importants pour la personne. Peu importe si c'est les Jeux Olympiques ou et ça, ce n'est pas la question. La question, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai pour faire pour permettre d'avoir un cycle qui n'empêche pas ma pratique sportive.
Dans les meilleures conditions,
dans les meilleures conditions, oui.
Mais c'est marrant parce que le nombre de fois, moi, j'ai entendu « Non, mais j'ai enchaîné deux plaquettes de pilules pour pas avoir mes règles parce que je savais que sinon, ça allait tomber là-dedans. » C'est démentiel. Et c'est vrai que j'ai l'impression que pendant très longtemps, finalement, on cherchait pas forcément peut-être la cause, mais on cherchait des alternatives.
Alors, juste pour faire une parenthèse, la question d'enchaîner les pilules, non, ça, c'est pas un problème.
D'accord.
Je parlais plus des sportives qui ont un cycle naturel et essayer de manipuler ces cycles naturels sans hormones pour essayer d'échanger les phases. Or, un coup de stress, ça peut déjà tout dérégler. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est pas très intelligent, parce que si elle est stressée avant le championnat, ça peut dérégler. Après, si l'athlète, elle est déjà sous, elle prend des pilules, mm-hmm. elle est sous contrôle hormonal, et si elle a vraiment, quand elle fait la pause de la pilule, elle ressent une baisse de motivation, une baisse de sa performance, donc à ce moment, non, c'est même intelligent, je dirais, je vais faire une prise en continu pour éviter tel et tel symptôme, okay. et tout ça. Mm. Dans ces cas, c'est intéressant. Okay. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est de faire les jours J. On comprend tous ces éléments avant pour ne pas avoir des surprises.
D'accord.
En fait, c'est ça. Enfin, là, je pense que les gens vont un peu paniquer. Enfin, les filles vont se dire, oh là là, mais je peux pas faire un tel jour, je peux pas m'entraîner non, tel autre jour. En fait, là, on est vraiment sur. Maintenant, on essaye de comprendre vraiment les choses. Donc, on essaye de creuser plus et de savoir quelles sont les différentes phases, quel est l'impact de différentes phases sur notre organisme et sur la pratique sportive. Mais d'une façon générale, ce qui est important, c'est effectivement que les jeunes femmes et les femmes plus âgées, quand même, aient bien conscience de l'importance, enfin, de comment, en fait, prendre conscience de leur état de santé et notamment à travers le cycle menstruel et après effectivement s'il y a des troubles du cycle à l'adolescence ou chez les jeunes femmes de le prendre en charge et après elles pourront pratiquer le sport comme elles le souhaitent et faire l'entraînement qu'elles souhaitent parce qu'il n'y a pas deux personnes qui vont s'entraîner de la même façon et avoir le même vécu. Il y en a une qui aura une contraception qu'elle va super bien tolérer, sa coéquipière aura exactement la même qu'elle va hyper mal tolérer, c'est très très personnel. Donc déjà essayer d'avoir des cycles qui sont réguliers, qui sont pas douloureux, et avoir une bonne hygiène de vie pour une sportive et être en bonne santé de base. Et après, il y a aussi pour les sportifs de haut niveau, essayer d'optimiser effectivement les phases d'entraînement pour justement optimiser leur performance. Mais d'une façon générale, je pense qu'il faut pas non plus que ce soit un sujet d'obsession. Il faut que ce soit un signe d'alerte. Mm-hmm. Faites attention, j'ai pas mes règles depuis 3 mois. Bah voilà, moi ça m'est encore arrivé au pôle. Ça fait 3 mois qu'elle n'a pas eu ses règles. Ok, on essaye de discuter, on voit, ça peut être le changement de charge d'entraînement. Ok, on va surveiller. Si ça réapparaît, on ne se stresse pas plus que ça. Si c'est bien toléré, aucun souci. Mais il faut que ce soit un signe d'alerte, mais pas d'obsession. Et que s'il y a des soucis, s'il y a des douleurs, qu'on les prenne en charge. Parce que déjà, indépendamment de toute contraception, on peut déjà permettre à des athlètes d'avoir des cycles réguliers, naturels. Et une pratique sportive en étant performante, quoi. Après, le problème de la contraception va bien en plus, mais c'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai observé, les jeunes filles sont très, très réfractaires maintenant. Enfin, peut-être pas toutes, mais beaucoup se disent « Ah non, c'est trop tôt, non, j'ai peur. » En fait, elles ont peur de prendre du poids, souvent. Ouais. Elles ont peur des effets secondaires, un peu, voilà, de se dire « Je vais plus maîtriser comme je maîtrise la... » Enfin, ça va changer, en fait. Elles ont peur de changer. Et donc, il y a aussi une appréhension. Et puis, chacune tolère différemment sa contraception. On l'a toute vécue. Donc, je pense que c'est un choix personnel, après.
En fait, les cas de figure sont infinis. C'est vrai que quand on vous écoute, c'est comme tu le disais, c'est pas pour faire peur, mais c'est important de le savoir, de l'avoir en tête et de le comprendre. Mais effectivement, en fait, quand on vous écoute, le mieux c'est de faire cette démarche là et d'essayer de comprendre comment on fonctionne, d'aller voir quelqu'un. Moi, j'ai une question aussi, forcément, qui découle un peu de ça, mais un suivi comme celui-ci peut être coûteux, long. On n'est pas forcément soit géographiquement ou dans le bon endroit pour se faire accompagner quand on est sportive ou sportive de haut niveau. Comment peut-on faire, du coup, si on a envie de faire ce travail-là?
Je dirais qu'une piste à donner, ça serait d'écrire dans un cahier ou bien utiliser une appli. Il y en a un certain nombre d'applis pour ça, pour suivre les cycles. Et à côté, suivre les ressentis liés à l'entraînement. Si l'objectif, c'est de relier les cycles à mes réponses à l'entraînement, mais aussi avec des paramètres comme l'humeur, la qualité de sommeil, mon énergie, par exemple, et prendre note. Du moment qu'on commence à observer les cycles, savoir dans quelle phase on est, et on commence à noter des phénomènes de tous les jours, par exemple, aujourd'hui j'ai la pêche, aujourd'hui j'ai plein d'énergie, aujourd'hui j'ai mal dormi, je me sens un peu fatiguée. Dans la majorité des cas, on va être en mesure d'identifier des phases où ça revient tout le temps. J'ai dormi un peu plus mal en fin de cycle. Mais j'ai beaucoup la pêche au milieu du cycle. Et donc, quand on commence à prendre note, on commence déjà à se rendre compte sur un certain nombre de paramètres qui nous permettent de nous connaître mieux à nous-mêmes. Et après, chercher l'information pour aussi essayer d'avoir des éléments. J'ai dit scientifique parce que bon, c'est mon métier, chercheuse, mais c'est parce que je trouve aussi que ça commence à avoir beaucoup d'informations dans tous les sens. C'est important de savoir aussi ce qui est vraiment prouvé pour ne pas aussi partir dans tous les sens. J'ai envie de dire, et comme Sandra disait, c'est même pas besoin, et c'est pas un élément d'obsession, mais c'est plus une démarche pour mieux se connaître.
Je pense que c'est important au moment des premières règles, de pouvoir consulter un gynécologue ou une gynécologue. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen gynéco avec le toucher vaginal, l'examen au spéculum, est pas du tout un examen qui est obligatoire, qui est nécessaire, qu'on a besoin de faire en tant que médecin pour prendre en charge les troubles du cycle menstruel. Donc les jeunes femmes peuvent tout à fait consulter avec leur mère ou leur grande sœur un gynéco, une gynéco. Il y a quand même de plus en plus de femmes, donc on est quand même de plus en plus à l'aise aussi, donc pour les jeunes filles quand même notamment, déjà pour discuter de ça, c'est-à-dire en disant, indépendamment de la pratique sportive, j'ai remarqué que tous les mois c'est un enfer, quand je vais au collège je suis pas bien, quand je vais au lycée c'est vraiment, j'ai du mal, ou dans ma pratique sportive les gynécos sont pas très à l'aise forcément avec la pratique sportive parce que c'est pas leur travail, mais elles, c'est leur job aussi de gérer ce type de troubles du cycle, donc elles vont accompagner, elles sont tout à fait en mesure d'accompagner déjà sur les troubles en eux-mêmes, c'est-à-dire rassurer la patiente en disant c'est pas méchant, ça fait qu'un an que les cycles sont apparus, donc faut attendre que ça se régularise, ou on va pouvoir mettre on va faire un bilan hormonal, ou alors on va mettre en place tel traitement pour soulager tes douleurs. Donc il y a déjà des choses qui peuvent être faites simplement en consultant une gynécologue. Pour les sportives, les femmes qui ont une activité physique régulière quand même relativement intense, qu'elles soient sportives de haut niveau ou pas, je pense que c'est important d'avoir un accompagnement diététique, alors que ce soit avec une diététicienne du sport ou un médecin nutritionniste. Alors il y a plein de modes, plein de pensées, courants de pensée, donc des fois on s'y perd un peu, même nous, mais l'idée étant d'avoir quand même des bases, et dans beaucoup de centre de formation, il y a un suivi diététique qui est important, parce que le but n'étant pas de régler forcément l'assiette au millimètre, sauf avant des compétitions ou avec des gros enjeux, ça on est d'accord, mais au quotidien, l'idée c'est d'apprendre à se connaître, de même qu'on apprend à se connaître physiquement en disant moi je sais que quand je vais avoir mes règles c'est cata, ou je sais que à telle période de l'année c'est toujours la catastrophe, que ce soit un homme ou une femme, à l'hiver c'est toujours compliqué, je sais ce que je dois manger, j'apprends quelles sont les catégories d'aliments, ce qui peut me permettre d'être plus performant, à quel moment je peux les manger, l'idée d'avoir une alimentation qui soit assez variée et adaptée à la charge d'entraînement, ça s'apprend à mon avis très jeune, surtout quand on a une pratique sportive régulière, parce que c'est aussi un garant de notre santé. Donc ça, on a beaucoup d'informations, on a peut-être même des fois trop d'informations, entre tous les réseaux sociaux, internet, tout ça, on peut trouver vraiment tout et n'importe quoi sur les programmes pour être performant, pour être plus sec, pour être plus bon. Donc je pense à aller voir un professionnel, ça peut être, ça peut être une première démarche d'un suivi, gynéco, plus de l'éducation, c'est pas forcément un suivi nutritionnel, mais de l'éducation nutritionnelle pour que, déjà ces deux éléments-là, en plus de la pratique sportive, ça c'est des piliers de la prise en charge des athlètes, c'est essentiel, quoi.
Et je trouve que ça c'est un point important. La nutrition aussi dans cette relation entre cycle, entraînement et nutrition, parce que notamment, ça touche notamment les femmes, cette question, l'image de soi, les corps, être sec, être fit, et parce que sur les comptes Instagram qui ont fait pour démocratiser ces sujets et montrer ce que nous trouvons en termes de recherches, j'ai parfois des sportifs qui vont me contacter et vont dire il a 3 ans que je n'ai pas mes règles, ou il a un certain temps que je n'ai pas les règles, et pour autant je suis pas en forme. Et parfois ça m'est arrivé, je vais aller voir leur profil pour voir ce qu'elles appellent de ne pas être en forme, c'est-à-dire elles considèrent comme elles m'ont dit, non, je suis pas fit, je suis pas Je ne suis pas quelqu'un qui devrait être en risque des déficits énergétiques chroniques pour perturber les cycles. Quand je vois, parfois je dis, ah oui, non, mais c'est très, très sec. Et c'est assez, elles sont fines, voire maigres. Parfois, ce n'est pas le cas de toutes, mais je me suis dit, même c'est un concept vraiment, qu'est-ce que c'est être fine, qu'est-ce que c'est être en bonne santé, qu'est-ce que c'est être en forme pour faire ma pratique sportive, parce qu'il y a aussi des notions où il faut être le plus mince possible pour certaines activités. Et c'est là pour avoir un impact sur les cycles menstruels. Et donc, l'importance aussi d'en parler, de discuter, d'aller voir un gynéco, parce que parfois, notre jugement, il peut être trompeur. On peut penser qu'on n'est pas en forme et aux yeux d'une personne extérieure, dire « Ah non, mais non, c'est pas ça. » Peut-être que ça vaut vraiment la peine d'aller consulter pour essayer de trouver la cause, parce que 3 ans sans les règles, ce n'est pas du normal, tout ouais. normal, ni bon, ni rassurant pour la santé.
C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations.
Oui, ça fait beaucoup de choses d'un coup.
Ouais. Ça fait beaucoup d'informations, mais effectivement, c'est important aussi d'en parler et que le sujet aussi se démocratise pour que peut-être après, voilà, le pas soit fait plus facilement, qu'on prenne comme l'alimentation, le sommeil, tout ça qui rentre en compte finalement dans la performance et dans la vie quotidienne, hein, finalement, soit prise sur le même niveau, finalement, à égalité. Là-dedans. Donc, bon, j'espère qu'on ne vous perd pas trop non plus avec toutes ces données. Mais moi, j'avais aussi, du coup, forcément une question, parce que là, donc, nous, on en parle, vous êtes des professionnels, donc permettez-moi l'expression, vous avez la tête dedans un peu, hein, finalement. Dans la majeure partie des athlètes qui s'entraînent, elles sont dans des clubs où leurs coachs, femmes ou hommes, hein, d'ailleurs, ne sont pas forcément au courant de tout ça, ne prennent pas en compte leur cycle. Et ce n'est pas forcément aussi une demande de la part des athlètes, parce que comme on le disait au début, du coup, c'est tellement intégré qu'on n'en parle pas. Comment faire ? Est-ce que vous, par exemple, toi qui travailles à l'INSEP ou en tant que médecin, on pourrait démocratiser finalement un peu cette thématique-là et que, au même titre que, encore une fois, les entraînements physiques, on prenne en compte les cycles directement dans la pratique sportive en tant que entraîneur, coach ou...
En fait, petit à petit, je suis intervenue il n'y a pas très longtemps auprès des entraîneurs de la Ligue des sports de glace de Bretagne. Mmh. Et en fait, c'est des thématiques auxquelles ils commencent à être réveillés. Enfin, c'est-à-dire qu'ils en ont entendu parler. Alors, ils ne savent pas trop. Bon, y en a qui disent encore « oui, ça, il n'y a pas d'impact ». Bon, on sait, en fait, en réalité, on ne sait pas encore précisément. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Il y a eu... on n'a pas essayé de preuves scientifiques qui puissent dire oui ou non, ça a un impact. Mmh. On s'en rend compte que de toute façon, du fait de l'expression des symptômes des patientes, ça a forcément un impact. Ouais. Mais donc de plus en plus, les entraîneurs commencent à être éveillés à ça. Moi, j'essaye petit à petit aussi tous les clubs ou les sportives que je rencontre, d'en parler. Maintenant, c'est systématique. Je sais que dans toutes les patientes que je vois, même pour une entorse de cheville, quand c'est la première fois que je la vois, on déroule tout, on demande même s'il y a une incontinence urinaire, l'idée c'est d'avoir vraiment une vision globale, et c'est notamment en faisant ce type de d'intervention, l'idée étant dans un premier temps que ce soit les athlètes qui prennent qui intègrent ça, ça veut pas dire qu'il faut aller voir l'entraîneur le lendemain pour en parler, mais déjà qu'elles se rendent compte que c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose d'irrémédiable, c'est juste quelque chose dont il faut parler. Il y a effectivement pas encore des milliers de professionnels qui sont éveillés à ça, mais de plus en plus, donc ça va venir petit à petit, ça vient, ça arrive. Donc il faut pas avoir peur d'en discuter, et je pense que dans quelques années les entraîneurs qui ne s'en préoccuperont pas seront marginaux, même si il y a des fédérations sportives où ils sont encore très 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 réfractaires à ce discours-là. Et faut pas toucher au mode de modèle.
exemple, je suis allée dans une fédération qu'on a lancé les projets pour démarrer Empower. Et j'ai fait la présentation initiale comme j'ai fait pour tout sport et tout sportif qu'on commence à suivre. Et cette présentation, on explique les cycles menstruels. Et j'ai l'habitude de dire que c'est appréhender les cycles comme tout autre paramètre lié à l'entraînement. Quand on essaye de faire de la performance, on essaye de prendre en compte la nutrition, on essaye de prendre en compte le sommeil, l'hygiène de vie. Donc, le cycle, c'est un paramètre au même titre que les autres. Et je l'explique tel quel. Et je finis la présentation et les dirigeants et même entraîneurs de la Fédé, ils ont dit « Ah, nous sommes ravis que tu as fait cette présentation, mais c'est la toute première fois qu'on a mentionné ces termes cycle menstruel parmi nos sportives. »
Ah ouais.
Et ça m'a bien surpris parce que c'était un groupe des jeunes. Et donc, c'est important aussi d'en parler, même si par rapport à il y a un certain nombre d'entraîneurs qui travaillent avec nous, ils ne savent pas encore comment prendre en compte les cycles. Mais du fait qu'ils en parlent, ils ont déjà compris. S'il y a des troubles de cycle, ça peut être un signe d'alerte et qu'ils en parlent normalement et qu'ils demandent si ça va et que l'athlète n'a pas besoin de dire qu'en fait, elle a mal au ventre, elle peut parler, voilà, j'ai mes règles, peut-être ce n'est pas aujourd'hui que je serai au top de ma forme. Ça permet aussi de casser ces tabous et c'est déjà un bon pas.
Ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Et puis les sportifs d'aujourd'hui seront les futurs entraîneurs de demain. Donc, je pense que ce qui est important, là, notre rôle, c'est, même si on n'arrive pas à convaincre les entraîneurs ou certaines fédérations, c'est déjà d'éveiller les sportives et qu'elles aient l'information. Après, elles en font ce qu'elles veulent. Enfin, de même que tout patient, nous, on est là pour informer les gens. Après, ils font ce qu'ils veulent en sortant du cabinet. Ils sont libres ou pas de suivre des recommandations. Donc, et en ça, je remercie Juliana pour le travail qu'elle fait avec le compte Instagram Empower Sportif parce que c'est une source d'information qui est vraiment, vraiment super en français. Donc voilà. Parce que pour ça, Instagram est vraiment. Alors, il y a tout, mais il y a aussi beaucoup de. Moi, je suis plein de comptes de kinés ou de préparateurs physiques ou même vous avez des journaux. Alors, c'est des journaux scientifiques en anglais. Donc, si pour les gens qui sont un peu anglophones. Et maintenant, il y a plein d'infographies qui sont faites, qui sont vraiment très accessibles. Il n'y a pas besoin de lire 20 pages en anglais, où en fait, on a plein d'infos.
On vulgarise finalement.
Voilà, où finalement, c'est assez clair de se dire, ah bah oui, et c'est des thématiques qui ressortent de plus en plus, qui n'étaient pas trop dans les journaux scientifiques. Et maintenant, tous les mois, on en voit, il y a au moins un article qui sort sur un de ces topics-là. Donc, ça va venir, quoi. C'est
encourageant.
C'est encourageant.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, ça sort un peu du sujet, mais ça concerne ce qu'on parlait au tout départ, l'importance du cycle menstruel comme un signe des bonnes santé de la femme. Mais c'est parce que c'est apparu récemment une étude scientifique très intéressante, mais très récente aussi, montrant l'impact d'avoir un trouble du cycle, des cycles irréguliers ou absents dans la santé des femmes en termes de décès. Et l'étude montre que les femmes qui ont des cycles irréguliers ou absents, constamment irréguliers ou absents, elles ont un risque de décès par maladie cardiovasculaire augmenté de 60% les risques. Ah. Donc, cela témoigne de ce qu'on est en train de discuter. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes et on veut parler de quelque chose dans notre petit cercle. Non, c'est important. C'est la santé des femmes. Et cette étude, pour moi, était flagrante parce que c'est la première de ce type et qui a mis en évidence vraiment un risque de décès par rapport à des cycles constamment irréguliers ou absents ou des cycles plus longs que 40 jours. Pareil, constamment plus longs que 40 jours. Ce qui témoigne d'un déséquilibre de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonodal, l'axe qui permet la production normale des hormones.
Oui, donc là, on passe encore même dans une autre dimension, finalement.
C'est reprendre possession de notre corps, de savoir on fonctionne pas comme les hommes et en fait c'est important d'être bienveillante avec soi-même et être bienveillante ça veut dire déjà commencer par s'écouter quand on a des douleurs et accepter, ça veut pas dire que on est une chochotte parce qu'on va voir l'entraîneur une fois par mois parce qu'on n'est pas bien, bon bah il y a des jeunes filles qui sont comme ça, ça les empêche pas d'être ultra performantes derrière, donc Donc c'est en ça que des fois certains comptes sur les réseaux sociaux de sport je suis ultra heureuse que les femmes fassent de plus en plus de sport. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'elles le fassent parce qu'elles ont envie de se sentir bien physiquement et tonique et tout, mais qui est quelque chose de plus, c'est-à-dire que ce soit vraiment un moyen d'épanouissement personnel et pas juste se dire c'est bon, je vais ressembler au. Parce que, enfin, je vais ressembler voilà, à la fit girl qui est sur les comptes Instagram, parce que ce qui est important, c'est effectivement d'être en bonne santé et je pense que ce soit qu'on soit bienveillantes les unes avec les autres et le but n'étant pas de réimposer un nouveau modèle aux femmes. Maintenant, vous avez le droit de faire du sport, mais par contre, vous le faites il faut vous affamer et il faut faire beaucoup de sport pour répondre à des normes sociétales. Et en ça, c'est la dérive des fois que je trouve un peu limite. Et je pense qu'il y a certaines femmes, même si elles sont très courageuses et très investies dans ce qu'elles font sur Instagram, véhiculent pas forcément un message très positif parce qu'en fait, il faut que chacun trouve son moyen de s'épanouir dans le sport ou pas, avec telle ou telle alimentation. Enfin voilà, je trouve que des fois c'est un peu trop normé et tout tourne autour du sport pour ressembler à un modèle physique qui fait la norme en ce moment. Et ça me chagrine un peu des fois la plupart des femmes utilisent le sport de cette façon-là. Je trouve que c'est un.
Soyons bienveillantes aussi.
Voilà, c'est ça en fait. C'est que chacune puisse. Moi, je veux dire, il y a plein de patientes, elles n'ont pas envie de faire de sport et après. Ouais. Enfin, voilà, c'est pas grave. C'est-à-dire, effectivement, d'un point de vue cardiovasculaire ou même sur plein de pathologies, voilà, c'est bien d'avoir une activité physique régulière. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer faire du fitness à la maison ou d'aller courir 4 fois par semaine. Il y a peut-être d'autres sports ou d'autres activités qui vont nous permettre de nous épanouir. Et c'est important, en fait, de pas se faire mal non plus avec le sport, de pas s'infliger ça parce que...
C'est important de le dire.
Voilà, on le voit avec certaines pathologies, notamment les fractures de fatigue et tout, parce que ça va avec. C'est-à-dire qu'on parlait des sportifs de haut niveau, mais des patientes qui ne vont pas manger assez, qui vont faire beaucoup de sport, elles vont aussi faire des problèmes. Mmh. Donc, c'est pas des sportifs de haut niveau, mais pour le coup, elles peuvent avoir le même type de pathologie, quoi. Donc, ça concerne tout le monde.
Vous, dans le cadre du coup d'Empower, quel est le futur de ça? Quel est l'avenir? Vous vous projetez comment sur les années à venir?
Nous avons bouclé la première partie du suivi de certaines sportives. Et cette première partie nous a permis déjà de commencer à distinguer des profils hormonaux différents et des réponses différentes en fonction des phases du cycle pour ces groupes d'athlètes. Donc, nos premiers résultats montrent un profil où les paramètres de l'entraînement sont améliorés au milieu du cycle. Un autre profil où il n'y a pas l'impact de cycle, elles sont assez régulières, indépendamment, et ça c'est plus fréquent parmi celles qui prennent la pilule.
Ouais.
Et un troisième profil où ce n'est pas clair. L'influence de cycle, elle est pas encore claire. Donc nous, la prochaine étape, c'est pour celles que nous avons identifié des phases optimales d'entraînement, c'est de tester, manipuler la charge d'entraînement. J'ai dû manipuler en termes soit de volume, soit en termes d'intensité. Ça dépend parce que là, on parle des sportifs de haut niveau. Donc, on doit être très sûr de notre protocole pour assurer que c'est là. S'il y a un impact sur la performance, c'est qu'il y a un impact positif. Et donc, l'idée, c'est ça. Ça serait d'avoir les volumes total d'entraînement comme elles ont toujours eu, sauf qu'organisés en fonction de leur fenêtre optimale ou une fenêtre où on va espacer un peu plus les entraînements. Il y en a déjà des études montrant que c'est une stratégie efficace, sauf que les études jusqu'à présent, ils faisaient cette adaptation de façon assez catégorique, c'est-à-dire on va s'entraîner plus en phase folliculaire. Sauf qu'on a déjà vu que pas toutes les femmes répondent de la même façon, donc on voudrait faire la même chose, mais adapté à chaque profil.
D'accord.
Mais ces études qui ont déjà fait ce type d'adaptation, c'est-à-dire, il y a une étude hyper intéressante qui a montré de faire des entraînements de force plus rapprochés, donc 5 séances par semaine en phase folliculaire et 2 séances par semaine en phase lutéale. versus l'inverse, ou alors faire 3 séances par semaine tout au long du cycle, c'est-à-dire sans adaptation. Et cette étude a montré que les sportifs qui faisaient les 5 séances d'entraînement par semaine en phase folliculaire avaient plus de gains de force, prenaient plus de masse maigre et amélioraient des critères de performance qui ont été mesurés, que c'était l'auteur des sauts, en faisant plus d'entraînement en phase où elles sont plus exposées, les hormones sont au plus bas et exposées à la montée d'estrogène. Et c'est encore plus intéressant, c'est que les groupes qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire plus d'entraînement des forces en présence des progestérones, donc la deuxième phase du cycle, elles avaient eu pas de gains, tout simplement. Mmh. Pendant la durée du protocole, que c'était quand même, si je ne me trompe pas, une durée de 8 semaines. Et donc, ça montre l'intérêt aussi de s'entraîner en écoutant les corps. Parce que si c'était juste, j'écoute mon corps et je peux m'améliorer, mais si je n'écoute pas, mais non, ça peut aller à l'encontre. Parce que notre physiologie, elle a des critères pour adapter à son entraînement, à les stimuli qu'on est en train de donner au cours de l'entraînement. Et j'ai trouvé cette étude hyper intéressante, mais nous, on souhaite faire, pour répondre à ta question, on souhaite faire mieux, on souhaite identifier les profils hormonaux de chacune, comme on vient de faire déjà pour certaines, et ensuite adapter. Parce que là, on pense qu'on aura les gains, les optimisations les plus intéressantes.
Très bien. Eh bien, en tout cas, ça va dans le bon sens. Si on pouvait peut-être résumer, en tout cas, est-ce que vous... Un dernier mot un peu pour conclure, un message simple que vous voudriez adresser aux femmes qui se posent des questions ou qui écoutent ce podcast et qui se disent « Ouh là là, mon Dieu, tellement d'informations, condensez-moi ça !» Qu'est-ce que vous auriez envie là, de dire finalement pour résumer?
Le terme de bienveillance, je le réitère, c'est-à-dire que faire de l'activité physique, oui, en essayant de faire attention à son alimentation dans le sens où en essayant d'adapter, afin que les apports soient suffisants à la charge d'entraînement, avoir une hygiène de vie, en faisant attention à son sommeil et tout ça, en termes de pratiques sportives régulières, c'est des choses qui sont importantes. Et après, effectivement, s'il y a des problèmes de cycle, ne pas hésiter à en parler avec un gynécologue, dont c'est le travail. Petit à petit, les médecins du sport aussi, même si la majorité sont des hommes, sont aussi éveillés à ça, les médecins généralistes petit à petit aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. En tout cas, pour résumer sur les règles, c'est effectivement un signal d'alerte qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas paniquer. Il n'y a absolument pas de panique, pas d'urgence de quoi que ce soit. On remarque qu'il y a un trouble. Voilà, on consulte un spécialiste. On surveille l'évolution des choses. Et on n'est pas obligé de... Voilà, l'idée, c'est d'avoir des règles qui soient régulières, non douloureuses et que... on soit le moins impacté possible dans notre quotidien, ou en tout cas de pouvoir vivre avec sereinement, et ensuite de pratiquer un sport qu'on aime au moment où on sent de le faire. C'est-à-dire s'il y a des jours où on sent que c'est pas possible, qu'on est trop fatigué, ou que à ce moment-là, c'est le jour où il faut faire quelque chose, une activité plus calme ou plus tranquille. Et je pense que le fait de s'écouter et de se respecter, c'est important. Après, toute sportive, il y a des jours où on va charger un peu plus parce qu'il faut, c'est le jeu aussi. Mais au moins, c'est important de faire ce choix-là, de ne pas le subir, de dire je connais mon corps, je vais m'informer si j'ai des questions. Et après, je décide en connaissance de cause. Et après, on peut choisir de s'entraîner quel moment, au moment où on le souhaite, dans les conditions dans lesquelles on souhaite le faire, mais en connaissance de cause. Voilà.
Moi, j'ajouterais juste, soyez à l'écoute de votre corps. Et votre cycle, il en parle beaucoup.
Moi, je pense que du coup, les gens qui auront écouté cet épisode l'auront compris. Je pense que pour le coup...
Ah j'espère.
Ah, c'est qu'il y a un petit problème, sinon. Non, c'est... Merci en tout cas d'être intervenu et d'avoir expliqué tout ça, parce que c'est très intéressant. Alors effectivement, il y a beaucoup d'informations, mais c'est important de le dire et de le savoir et d'en avoir conscience. Donc je suis contente d'avoir pu le faire avec vous aujourd'hui. Une dernière question qu'on pose qui n'a pas forcément à voir avec la conversation qu'on a eue là, mais qui est la question qu'on pose à toutes les personnes qui interviennent dans le podcast, pour clore cet épisode, c'est si vous deviez donner une définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que vous diriez ? Ah oui, je vous prends un petit peu au dépourvu.
Alors, c'est effectivement pas évident, mais je pense que c'est quelqu'un qui se connaît bien et qui apprend à se dépasser soi-même. Et voilà, et à connaître ses forces, ses faiblesses et à réussir à atteindre ses objectifs en prenant en compte ses forces et ses faiblesses, à accepter ses faiblesses et les transformer éventuellement en force. Pour moi, c'est... Voilà.
Un championne, pour moi, c'est quelqu'un qui ne laisse jamais tomber ses objectifs et qui se donne les moyens de les atteindre.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cet épisode extrêmement intéressant et pour ce nouveau, d'avoir inauguré, du coup, ce format talk.
On est ravis d'avoir pu échanger. Et puis, j'espère que, justement, ça pourra servir déjà un petit éveil. Il ne faut pas de panique, mais juste, voilà.
Et on vous mettra également dans le descriptif de cet épisode le lien du compte Instagram Empower. Du coup, il y a plein d'informations très intéressantes qui sont synthétisées. Donc voilà, ça pourrait. Ça, n'hésitez pas à aller suivre ce compte, c'est une mine d'or de plein d'informations et qui sont importantes de connaître. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Merci beaucoup Juliana, merci beaucoup Sandra.
Merci Chloé.
Merci à toi.
Et à très bientôt.
Au revoir.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt !